Bonsoir à tous, nous sommes jeudi 15 juin 2023, il est l'heure du journal en français du studio Kalangou. À la une, plus de 2000 personnes déjà victimes des inondations dans la région de Zender alors qu'on est qu'au début de la saison des pluies. Des précisions avec le responsable de la protection civile. Près de 350 personnes sont victimes. Autres personnes sont victimes cette fois-ci de l'arrivée de la montée des eaux de la Komadougou dans la ville de Diffa. À suivre dans ce journal le témoignage d'un représentant d'un chef de quartier. Et dans la partie magazine, suivez une coproduction des trois studios de la Fondation Hirondelle au Sahel consacrée à la situation de l'accès à l'eau. Plus de 2500 personnes sont touchées par les inondations en ce début de saison des pluies dans la région de Zender à la date de ce jeudi 15 juin selon les services régionaux de la protection civile. Commandant Hamani Abdelaziz, directeur régional de la protection civile, donne d'autres détails au micro de Zara Boukar.
À ce jour, nous enregistrons une situation de 319 ménages sinistrés, totalisant près de 2648 personnes, avec quelques jardins aussi à l'entrée de la ville, le secteur de Médic, où nous avons eu plus de 180 jardins qui ont déjà été inondés. Et je pense que les stations météo ont enregistré des pluies à hauteur de 188 mm dans le département de Mria en début de la saison. C'est un amas de sinistres qu'on enregistre en passant par des biens inondés, à savoir les maisons effondrées. Nous avons aussi des destructions de biens suite à la montée des eaux de pluie. Pour le moment, heureusement, nous n'enregistrons pas de pertes en vies humaines, mais nous avons malheureusement eu un véhicule qui a été emporté, je pense il y a une dizaine de jours, dans le département de Damagaram-Takaya.
Inondation également à Diffa avec l'arrivée mardi 13 juin de la Komadougou, la rivière qui jonche les quartiers nord et est de la ville de Diffa. Son arrivée après 6 mois d'assèchement a coïncidé avec la reprise de la digue de sable qui protège la ville. Zibomanou, représentant du chef du quartier de Sabon Carré, s'est confié à notre reporter Mani Moussa.
L'année passée, ils ont utilisé des bulldozers pour remblayer les endroits touchés. Cette année, s'ils engagent ces travaux, nous allons les faire ensemble. Nous pensons que ça va être fait comme promis. Ces travaux concernent ici Sabon Carré, Bukarpulo et Difakura. Ce sont ces quatre quartiers qui sont touchés par les inondations. Mais les plus touchés, c'est Sabon Carré. Les sinistrés sont au nombre de 344 personnes. Pour l'instant, avec le début des travaux, je me réjouis. Mais si jamais ces travaux s'arrêtent, nous allons vous informer. Nous voulons assurer que les autorités tiennent. L'année dernière, 44 maisons ont été effondrées. Donc, il faut trouver les moyens de les prendre en charge pour qu'ils aient le courage de travailler.
La commune rurale de Fulatari est une zone à vocation pastorale dans le département de Maine-et-Suroa. Les effets du changement climatique ont impacté malheureusement ce secteur qui est l'activité principale de la population de cette commune. Moussa Ibra, chef du service élevage de Fulatari, explique au micro de Maman Idrissa.
Il y a quelque temps, il y avait suffisamment du pâturage, de l'herbe fraîche et de matière sèche. 5 mois après la fin de l'hivernage, on en trouvait un peu partout. Aujourd'hui, avec les effets du changement climatique, il pleut moins et l'herbe pousse peu. Il y a plusieurs espèces herbacées qui ont disparu. Les espèces restantes n'intéressent pas assez le bétail, car elles n'engraissent pas les animaux. Vous allez voir, à tout moment, les animaux sont maigres et malades et ne se reproduisent pas normalement. Tout cela est dû à la mauvaise alimentation. Vraiment, l'élevage souffre beaucoup à cause du changement climatique.
De la même région, la route entre Maine-et-Suroa et Gaïdam au Nigeria permet les échanges entre les deux pays, ce qui a poussé les autorités à lancer des travaux de réhabilitation de la route pour faciliter le déplacement dans les deux sens des populations et des commerçants. Cette route est pratiquement impraticable pendant cette saison pluvieuse. El-Hadji Ibrahim Ousmane, préfet de Maine-et-Suroa, explique au micro de Guidi Abdraman.
S'agissant du tronçon Mayne-Gaïdam, la partie de 7 km confiée à l'entreprise Barka est sur le point d'être achevée. Mais devant, avant d'arriver à Gaïdam, la partie nécessite des travaux de réhabilitation. Les usagers souffrent sur cette voie, surtout en cette saison pluvieuse. Sur cet été, nous avons pu aller au Nigeria. Nous allions discuter avec les autorités, notamment celle de l'État de Yobe, de cette route, car elle profite aux ressortissants du Niger et à ceux du Nigeria. Toutes les marchandises, tous les voyages passent par cette voie, surtout qu'elle n'a pas de contour. Donc si elle se détériore complètement, c'est des problèmes. Nous appelons les usagers à prêter beaucoup attention. Du point de vue sécurité, il n'y a pas de problème.
Le commissariat chargé à l'organisation du Hajj et de la Umrah pour mettre les pèlerins nigériens au Hajj de cette année dans de meilleures conditions a procédé au choix du lieu d'hébergement des pèlerins en Arabie Saoudite. Comment est leur situation déjà en Terre Sainte? Gongo Mohamed Dantani a joint ce matin le président de l'association nigérienne des agences de pèlerinage, El Hajj Moumouni Amadou.
Les problèmes que nous avons rencontrés sur le terrain, c'est les problèmes d'embouteillage au niveau des ascenseurs. Évacuer plus de 1000 personnes avec des ascenseurs, avec des bâtiments de 15 étages à plus, franchement, c'est un calvaire. Parce que hier, nous avons assisté vraiment à des scénarios de 23h à 0h. Les pèlerins attendaient au pied des ascenseurs avant d'aller dans leur chambre. Donc, c'était prévisible. Un bâtiment de 15 étages à plus, évacuer 1000 pèlerins. Même si c'est la moitié en même temps, c'est pas facile. Donc vraiment, cette expérience-là, je crois qu'on doit réfléchir là-dessus. Puisque tous ceux qui sont sur le terrain ont vu que vraiment cette expérience-là a échoué vraiment.
La riposte contre la méningite de la région d'Agadez commence à apporter ses fruits. L'on assiste à une chute drastique des cas de ces dernières semaines. 96% de couverture vaccinale pour une cible de 107 000 personnes de 1 à 29 ans prévues pour recevoir le vaccin contre la méningite. Hamissou Maman Lawali, chef service épidémiologie à la Direction régionale de la santé, explique au micro d'Anissé Karim.
Avant la riposte, il y a des semaines où on a notifié jusqu'à 42 cas. Mais maintenant, Dieu merci, avec la riposte, maintenant nous sommes revenus à 7 cas. Rien que cette dernière semaine, la semaine 23 de 2023, donc nous avons juste arrêté 3 cas. Donc ça veut dire qu'il y a une chute drastique, en tout cas des cas. On a réussi à cette riposte vaccinale parce que les cas ont diminué et la situation est maîtrisée. Maintenant, du point de vue prise en charge aussi, les cas graves ont diminué et les décès aussi ont diminué. Maintenant, nous sommes à 3 cas pour la dernière semaine. Pour une cible en tout cas de 107 000 personnes de 1 à 29 ans, on a eu une couverture de 96%. Ça veut dire quoi? Sur 100 personnes qui sont censées être vaccinées, on a vacciné 96. On a fait tous les coins d'Agadez commune, toutes les écoles coraniques, toutes les écoles primaires, les secondaires et les lycées donc, ont été vaccinés. Au niveau de la communauté aussi, tous ceux qui sont dans la tranche d'âge 1-29 ans ont été vaccinés.
La commune de Dosso, comme certaines autres du pays, connaît le problème de l'incivisme fiscal selon les responsables municipaux. Pour pallier au problème, les autorités ont mené plusieurs séances de sensibilisation, mais la situation reste toujours inchangée. Selon le premier adjoint au maire de Dosso, à la date du mois de juin 2023, aucun quartier n'a encore versé le recette fiscale de sa population. Adamo Amadou, au micro de Hawa Ousmane.
La commune de Dosso souffre amèrement de cet incivisme fiscal parce que à cette date, je vous avoue que aucun quartier n'a payé sa taxe de municipalité ou sa taxe de voirie. Donc c'est un problème déjà. Quand vous savez que la commune n'a pas de ressources en dehors de ses taxes, donc c'est déplorable. Les gens pensent que c'est l'État qui doit financer une commune, alors que c'est la population elle-même qui doit financer sa propre commune pour que la commune puisse faire des travaux pour le bien-être de cette population. Mais très malheureusement, je crois que les gens n'ont pas cette notion. Les gens ne comprennent pas leur rôle dans le bon fonctionnement d'une commune. Or, les besoins sont énormes, la salubrité est là, les infrastructures sont là. Avec quoi on va répondre à toutes ces exigences?
Bienvenue dans notre magazine spécial consacré à la situation de l'eau au Mali. au Niger et au Burkina Faso. Dans ces trois pays du Sahel, l'eau est non seulement rare dans de nombreuses localités, mais sa qualité laisse souvent à désirer. Près de la moitié des Nigériens, environ 30% des Maliens et 25% des Burkinabés n'ont pas accès à l'eau potable. Ces chiffres officiels révèlent une réalité préoccupante pour les populations de la région. On en parle dans cette coproduction du studio Yafa au Burkina Faso, du studio Tamani au Mali et du studio Kalangou au Niger, trois médias de la Fondation Hirondelle au Sahel. Il est présenté par Adama Amadou Haïdara.
Au Burkina, au Mali comme au Niger, ils sont nombreux les citoyens qui doivent parcourir des kilomètres à la recherche de l'eau. Et avoir cette ressource vitale et en qualité n'est pas toujours évident. Nous avons recueilli des témoignages dans les trois pays en donnant la parole aux citoyens confrontés quotidiennement à la quête de cette ressource vitale.
À partir du mois de mai, avoir de l'eau ici devient compliqué. C'est avec l'eau de ce puits que nous arrosons nos productions. Si on arrange le barrage, nous allons beaucoup travailler parce que cela nous est avantageux.
Le forage qui est dans le nouveau quartier, bien sûr la route de Sanga, que nous sommes en train d'utiliser, la qualité elle est bonne, mais elle est très insuffisante. Le coût aussi est un peu cher.
J'habite à Daganougou. Nous utilisons l'eau de forage, mais des fois, il y a coupure.
Notre eau est de bonne qualité, mais du fait que le forage est solaire, quand il n'y a pas de soleil, on n'a pas d'eau normalement.
Ici, on n'a qu'un seul forage. Les gens peuvent venir du matin jusqu'à midi sans avoir de l'eau.
Nous avons énormément souffert par le passé. Nous partons à la recherche de l'eau dans les villages de Kartou, de Mata ou de Modouk. Et il nous arrivait de passer la nuit à la recherche de cette eau.
Avant, nous parcourons des kilomètres et des kilomètres avec nos enfants à la recherche de l'eau. Et c'était pénible pour nous.
Le manque d'eau constitue également un facteur de migration des jeunes du Sahel. Dans le village de Louda, situé dans la région du nord-centre du Burkina Faso, cette réalité est malheureusement bien présente. Lassane Ouidraogo, irisiculteur, partage son désarroi face à cette situation.
Les jeunes qui sont ici sont en train de fuir pour aller au Mali, pour aller en Guinée, au niveau des sites d'olifères, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'eau pour leur permettre de produire comme il le faut.
Pour résoudre cette problématique, des experts du secteur proposent des solutions. Dr Ibrahim Boubacar, hydroclimatologue au Niger, et Abdoulaye Tangara, directeur national adjoint de l'hydraulique du Mali, plaide pour la construction de barrages supplémentaires et un investissement accru du secteur privé.
Pour faire face à ce problème, en fait, ça dépend de la région où on se trouve. Pour les villages ou bien les villes qui sont situées le long du fleuve Niger, c'est de construire un barrage. Ce barrage permet de réguler en fait le débit du fleuve Niger, de ne pas laisser cette eau-là couler et continuer vers l'océan, mais de la bloquer et de la lâcher en fonction des besoins en eau de la population qui se trouve le long du fleuve Niger. Maintenant, pour les zones qui sont situées sur la zone de bassin sédimentaire où on a les nappes souterraines qui sont bien chargées. Évidemment, là-bas, la solution, c'est de construire des forages et équiper ces forages avec maintenant des pompes solaires s'il n'y a pas le réseau Nigelec.
La solution locale, c'est d'abord le financement de l'État. Ensuite, l'autre solution locale, c'est que nous invitons les privés maliens d'investir comme ils investissent dans d'autres secteurs. Tout ça, c'est avec les populations. Le paiement du service de l'eau, c'est pas l'eau qu'on paye, mais le service qui nous permet d'accéder à l'eau facilement. Par exemple, les moyens qu'on met en place, c'est des équipements. Il faut les entretenir, il faut les remplacer. Donc ça, c'est à la charge des usagers.
Parmi les solutions locales existantes, les forages jouent un rôle essentiel dans l'accès à l'eau potable. Cependant, il est important de souligner que ces différentes sources d'eau doivent être précédées d'une évaluation globale de la situation et nécessitent un suivi et un entretien régulier des installations. Ce magazine a été réalisé en coproduction par trois médias de la Fondation Hirondelle au Sahel, Studio Yafa au Burkina Faso, Studio Tamani au Mali et Studio Kalangou au Niger. Nous espérons que cette émission contribuera à sensibiliser davantage sur cette problématique cruciale et encouragera les actions nécessaires pour garantir un accès à l'eau potable pour tous. Merci d'avoir été avec nous.
Ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir écouté. Dans un instant, les journaux en langue nationale jusqu'à 18h15 où Michel Dedji animera le forum en français sur le thème comment choisir et bien traiter un sujet de français au baccalauréat. Vous pouvez réécouter les journaux et les magazines sur le toit de 5 gratuitement avec la puce RTL et le reste de nos productions sur l'application Studio Kalangou disponible sur Play Store.